Merci. Et on est rendu au chapitre 5 de Josué. Et sur le thème de la série, c'est la meilleure année 2019. La meilleure année 2019, dans ce que j'avais à amener, à apporter, c'était la meilleure année 2019 qui passe. Oh, comment ça se fait, donc? Ah, t'as ma tablette? Comment ça se fait, t'as pas la... Qu'est-ce qu'il y a, mon portable? Ça, c'est ma petite fille. Il est dans l'autre écran. Quel autre écran?
Ben, dans celui-là, mais toi, tu partages l'autre. Ton fond d'écran. Puis regarde-toi.
Ça, j'haïs ça. OK. Oui, je te laisse. Je te laisse parce que je vais pogner les nerfs. Ça serait de valeur de parler de la sanctification puis de pogner les nerfs. Puis ce qu'il y a de pire, c'est quand tu regardes la technologie chez vous et que ça marche bien, tu te dis « Hey, je suis bon, hein? Et je suis bon! » Puis là, tu arrives ici, ça ne marche pas, tu te dis « Je n'étais pas si bon que ça, finalement. » Dis-moi que c'est pas moi, que c'est vous autres.
Ben, tu veux-tu partir?
Ouais.
Tu veux saluer?
Bon, voilà. De quoi? Voilà. Eh bien, et voilà, on est rendu sur Josué au chapitre 5. Et le chapitre 5 de Josué a 15 versets. Je voudrais pas vous faire lire les 15 versets ce matin, on va manquer de temps. Par contre, j'aimerais qu'on lise, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur le chapitre 5 de Josué. Et j'en ai voulu un peu à Trevor, parce qu'il m'a dit, j'ai dit, coudonc, tu m'as donné bien du stock à parler. J'ai pas le temps de parler de tout. Sauf que, on a un but. Le but est certainement la sanctification. La meilleure année de votre vie passe par la sanctification. Et c'est un sujet important. C'est un sujet important pour Dieu et ça devrait être aussi important pour nous. On va voir dans les versets que tout notre service, toute notre vie chrétienne dépend du niveau de sanctification. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho dans ma voix, c'est possible? Et là, ça ne dépend pas de moi. Et on pourrait lire, on voit que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert, ils sont arrivés... au pied du Jourdain, et Trevor nous vous avait mentionné qu'il avait traversé le Jourdain à sec, et il avait pris 12 pierres dans la rivière et 12 pierres sur le bord pour signaler que tout le monde avait passé, finalement. Tout le peuple avait passé. Et on est rendu à l'autre côté, dans la terre promise par Dieu. Et on va lire à partir de Josué 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, et par d'autres textes par la suite. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Et on va arriver au verset 9 et 10. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. » Sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Et finalement, les deux derniers versets que je vais lire du chapitre 5, Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main, dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba sur le visage, contre terre, se prosternant, et il dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Les deux derniers versets nous rappellent que Dieu est avec son peuple dans ses besoins. Josué devait conquérir cette terre promise-là. Il devait être un homme de guerre. Et l'image de Dieu lui est apparue, c'est-à-dire l'image de Christ lui est apparue, l'épée nue à la main. Donc, cet homme-là était aussi en guerre avec Josué. Il accompagnait Josué. Il connaissait ses besoins. Mais ce matin, ce que j'aimerais vous parler, c'est premièrement de trois choses. Un nouveau départ, un peuple à part et d'un cœur à part. Un nouveau départ. Le peuple terrestre de Dieu, Israël, est rendu à un moment important de son histoire. C'est un moment crucial. Dieu permet à son peuple de réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham dans Genèse, au chapitre 17. Il va dire, et ça ne sert à rien de tout le lire, mais « Je rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » C'est une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants et à toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ne fait plus qu'une promesse. Dieu a fait beaucoup de promesses. Mais il fait plus que ça. Il fait une alliance. Au verset 7, il va dire, « C'est une alliance, ce sera une alliance perpétuelle qui va passer à travers les temps. » Une alliance est essentiellement un engagement. Une alliance, pour bien comprendre, c'est un engagement de deux parties. Et ça existe non seulement pour les Juifs, pour Dieu. Mais ça existait dans le temps des patriarches. Une véritable alliance existait dans les peuples, même des inconvertis. Ça existait. Ça devait être conditionnel. Une alliance, pour qu'elle existe vraiment, devait avoir, premièrement, un engagement de deux parties. Et deuxièmement, il devait y avoir un signe. C'était absolument obligatoire qu'il y ait le signe. Pas de signe, pas d'alliance. C'était les conditions de ce temps-là pour qu'une alliance se fasse. On voit dans l'engagement de Dieu que Dieu s'engage à ce qu'il nomme Abraham père d'une multitude de nations, au verset 4, qui n'est pas sur l'écran. « Je te ferai fructifier extrêmement, des rois sortiront de toi, et une alliance entre moi et toi, entre toi et ta semence. » C'est-à-dire, pas juste Abraham, mais ceux qui vont suivre par la suite. L'engagement du peuple, il devait respecter la loi de l'Éternel, les 10 commandements. C'était l'engagement du peuple. On voit différents des passages qui sont soulignés, des passages qui sont en gras, pour montrer les différences. Mais il devait absolument avoir un signe. Le signe qui était là, on le voit dans le bas. Je sais que vous ne voyez pas le bas de l'écran, là, j'avais trop de texte. Là. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous, au verset 11. Le signe était la circoncision. Au verset 13, il va dire, « Mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. » C'était un signe. Et c'était une alliance en bonne et due forme entre le peuple d'Israël et Dieu. Il y a d'autres alliances. On pourrait prendre d'autres alliances. On pourrait donner un exemple. Nous avons donné notre vie à Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ils ont fait une alliance. Ils ont dit à quelque part, et cette alliance-là, c'était le salut. L'engagement de Dieu dans cette alliance. Je vais vous donner la vie éternelle. Notre frère, ce matin, nous a mentionné Jean 3,16. Eh bien, c'est vrai. Et ça fait partie d'une alliance. Et Dieu a dit, je vais vous donner cette vie éternelle. L'engagement de celui, de l'autre partie, de notre partie, faire de Dieu mon Seigneur et mon Dieu. De faire de Dieu mon Dieu. De ne pas aller plus loin et de vraiment vivre en fonction que c'est vraiment Dieu est mon Dieu. Le signe, c'est le baptême. À quelque part, lorsque je vais donner ma vie à Dieu, je peux le faire seul, dans ma chambre, tranquille, sans que jamais personne au monde le sache. Mais Dieu me demande de le signer, de signer cette alliance-là, et Dieu le fait par le baptême. La semaine prochaine, dimanche prochain, il y a deux personnes qui vont passer aux actes, qui vont passer par les eaux du baptême. Et c'est le signe public comme quoi, à quelque part, que cette alliance-là a eu lieu. Il est important de bien comprendre que, à quelque part, on doit être sûr de notre salut, convaincu que nous avons créé cette alliance-là pour passer par les eaux du baptême. Si, à quelque part, on dit « sauvé, pas sûr, je ne sais pas, peut-être, là », ça ne fonctionne pas. Nous devons avoir cette assurance du salut là pour dire quelque part, oui, je m'y engage et je passe par les eaux du baptême. Et voici la position d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Ils ont sorti du désert. Ils sont maintenant rendus en terre promise, à un endroit qu'ils vont nommer Gilgal. Gilgal, c'est un nom assez bizarre, c'est une ville qui s'appelle Gilgal. J'ai vu plus bizarre que ça, là, mais quand même, Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilgal? C'est quoi ça? C'est l'action de rouler. Si on traduit Gilgal, c'est l'action de rouler. Et l'action de rouler, c'est comme c'est mentionné au verset 9, le peuple d'Israël a sorti d'Égypte. Et sortir d'Égypte n'était qu'une étape. Les Égyptiens pouvaient dire, ils ont quitté l'Égypte, ils vont aller mourir dans le désert. C'est pas vraiment la meilleure décision que tu as prise dans ta vie. Quitter un pays pour aller mourir dans le désert. Ils portaient la honte de cette décision-là. C'est-à-dire, à quelque part, tu quittes un pays où tu es nourri, OK, tu travailles, mais au moins tu es nourri, tu as un chez-vous, tu as une place, puis tu t'en vas vivre dans un désert. Et à des endroits, dans la parole de Dieu, ce désert-là était vraiment affreux, terrible, dur à vivre. Et les Égyptiens disaient, ils pouvaient dire à ce moment-là, ils ont pris une très mauvaise décision. Ils vont dire, à quelque part, ils ont l'opprobre de leur décision, ils ont la honte de leur décision. Ils vont mourir dans le désert, puis tant mieux pour eux autres. C'est qu'une gang de, et on va mettre des petits points. Mais finalement, le peuple d'Israël est entré dans la terre promise par Dieu. Ils n'ont plus à avoir honte. Ils prennent possession, la promesse de Dieu, dans Genèse 17, s'accomplit. Ils ont à conquérir un pays, mais la promesse de Dieu s'accomplit. Et les termes de l'Alliance, l'engagement de l'Alliance prend corps. Ils ont maintenant un pays à conquérir. Ils peuvent posséder ce pays-là. C'est leur pays. L'opprobre, la honte de leur décision est maintenant roulée de dessus eux. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 9, je le répète pour mieux comprendre, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fait appeler du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Ils ont roulé l'opprobre, roulé la honte. Mais voilà, les termes de l'alliance ne sont pas tout à fait respectés. Vous avez dit, pour qu'une alliance se fasse, il y a des termes, il y a des engagements, mais il y a aussi un signe. Et le signe n'est plus là. L'alliance, Dieu a respecté son côté, maintenant l'homme doit respecter le sien. La circoncision n'a pas été transmise dans le désert. Les hommes qui sont sortis d'Égypte étaient circoncis, mais pas ceux qui rentrent dans la terre promise. Ils doivent penser absolument, si l'alliance tient bon, le signe doit aussi faire sa part. Israël, c'est un peuple à part. Israël est rentré dans la terre de Canaan comme un peuple. Et il doit être considéré aussi comme un peuple. Et comme ce peuple-là, il doit porter le signe que Dieu leur a donné. Malgré qu'ils soient dans un pays entouré d'ennemis, Dieu demande qu'ils portent dans leur chair le signe de leur appartenance, la circoncision. Si la promesse d'alliance devait être une réalité, le signe aussi devait être une réalité. Et deux choses. La deuxième chose qui se passe à Gilgal, c'est qu'Israël célèbre la Pâque. Cette chose-là aussi, la Pâque a été négligée tout le long dans le désert. Il n'y a aucunement mention que des 40 années dans le désert, la Pâque a été célébrée continuellement. La Pâque est un rituel qui rappelle au peuple qu'ils ont été rachetés par Dieu. Un mémorial entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Un mémorial qui rappelle l'engagement du peuple, que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, que la loi de l'Éternel soit dans ta pensée, que tu puisses continuer à respecter ton engagement. Et cette Pâque-là, la première Pâque qui a eu lieu en Égypte, devait être continuée lorsqu'il rentrait en terre promise. Et c'était aussi une condition. Ce qui fait d'Israël un peuple à part entière, un peuple à part, un peuple saint. Okay? L'alliance perpétuelle, un peuple prospère qui n'a qu'un seul Dieu. Le signe, la circoncision. Et le rappel de cette appartenance, la Pâque. L'amour que Dieu a encore aujourd'hui pour son peuple terrestre. C'est une alliance perpétuelle. Donc, l'alliance existe encore aujourd'hui, en 2019. Il se rappelle encore cette alliance-là. Il ne les a pas abandonnés. Et même si Israël n'a jamais possédé tout le territoire que Dieu lui avait promis, une chose est certaine, un jour, Israël va posséder tout le territoire situé entre l'Égypte et le fleuve de l'Euphrate, qui est énorme. C'est gigantesque comme territoire. Mais jamais Israël ne put prendre tout ce territoire-là. Donc un jour, et on va, peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être qu'on va être avec le Seigneur, je ne connais pas le déroulement des choses, mais je sais que je sois là ou non, le peuple d'Israël va conquérir et va avoir tout ce territoire-là qui lui appartient. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Et cette alliance-là, elle est perpétuelle. C'est un énorme privilège d'être en alliance avec Dieu. C'est tout un privilège. Mais tout privilège est rattaché des responsabilités. Et ça, c'est une loi qui est universelle. Vous avez des privilèges, super! Vous avez aussi des responsabilités. Et vous avez le privilège d'avoir un permis de conduire. Bien, vous devez respecter les lois. Et ainsi de suite. Ce peuple devait obéissance à son Dieu. Ils ne devaient pas agir comme les autres peuples. Ils étaient un peuple à part. Ils avaient la loi parfaite de Dieu pour les guider. Il n'y a aucun peuple sur la terre, à part le peuple d'Israël, qui avait cette loi-là. C'est une loi parfaite. Ils étaient le peuple à part à cause de leurs signes qui les distinguaient. Et je réfléchissais là-dessus, puis je me rappelais les films qu'on voyait, les films de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Et les Allemands retrouvaient les Juifs lorsqu'ils les regardaient, ils disaient « Baisse les pantalons, on veut voir si c'est un Juif ». Et c'était la manière de reconnaître les Juifs, ils étaient absolument circoncis. Et c'est un signe qui les distingue. Et c'est, ils sont à part aussi à cause de leur fête, qui rappelle ce qu'ils étaient, de la relation qu'ils ont avec leur seul vrai Dieu. Et ils avaient la loi parfaite de Dieu. Nous avons un cœur à part. Je vais mettre ça ici pour l'instant et je vais voir plus tard qu'est-ce que je vais faire avec. Eh bien, leçon d'objet ce matin. Un cœur à part. Aujourd'hui, depuis déjà 2000 ans, Dieu s'est formé un peuple céleste. Des hommes, des femmes au travers du monde qui ont décidé de créer une alliance avec Dieu. Et elle s'appelle la Nouvelle Alliance. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais on pourrait dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. On pourrait le dire facilement. Parce que c'est ce qui tourne autour de cette alliance-là qui a formé tout l'Ancien Testament. Et c'est cette Nouvelle Alliance-là qui met en forme tout le Nouveau Testament aussi. Une alliance éternelle, la vie éternelle grâce au sang de Christ à la croix, le signe, le baptême, et le rappel de cela, le repas du Seigneur, comme on a pris ce matin. À chaque fois que vous prenez le repas du Seigneur, vous vous rappelez que vous avez donné votre vie à Dieu, que vous avez créé une alliance avec Dieu, vous avez passé par les eaux du baptême, et vous vous rappelez ces choses-là. L'amour de Dieu qui désire nous voir avec lui pour l'éternité. Aujourd'hui, l'Église est appelée la fiancée de Christ. Mais un jour, cette même Église-là sera l'épouse de Christ. Et Dieu est contre le divorce. Donc, nous serons un jour l'épouse de Christ et ce sera pour l'éternité. Et si Israël s'identifie à la circoncision dans la chair, nous, comme Église et même comme chrétiens, nous pouvons nous identifier à la circoncision du cœur. Comme Paul l'écrit dans Romains 2, 28-29 et dans Colossiens 2, 11. Mais ici, là, je dois expliquer qu'est-ce que c'est la circoncision du cœur. Parce que c'est un beau terme, ça, la circoncision du cœur, mais ça ne veut rien dire. Hein? Et quand même me dire, qu'est-ce que ça veut dire, la circoncision du cœur? Ouais. D'abord, c'est quoi le cœur? Quel est le cœur? C'est quoi le cœur, là? Le cœur, c'est-tu la patate qui bat à chamade, là, ici en avant, là, ou qui bat très calmement, ici, là, dans la salle? C'est-tu ça, là? C'est-tu ça, le cœur? C'est-tu toute notre être, âme, esprit et corps? C'est-tu ça? Ça veut rien dire. Si on regarde le texte original grec, le cœur, c'est la pensée. C'est ça, le cœur. C'est notre pensée. La circoncision du cœur, c'est la sanctification, mais c'est la circoncision de notre pensée. Et le meilleur, et lorsque j'essayais d'emmener une explication, la parole de Dieu parle d'elle-même. Et il m'est revenu à la mémoire ce verset que j'ai appris par cœur dans Philippiens 4:8. Lorsqu'il dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de confiance, soit l'objet de vos pensées. » Et la circoncision du cœur, c'est exactement cela. La circoncision de la chair dans l'Ancienne Alliance, autant que la circoncision du cœur dans cette nouvelle alliance, fait ressortir l'idée d'être mis à part. Parce que la sanctification, c'est exactement ça, être mis à part. Mettre à part dans sa chair un peuple ou mettre à part dans son cœur nos pensées, part pour Dieu, c'est exactement l'idée d'être sanctifié. Et Dieu désire cela. C'est un énorme privilège de pouvoir être mis à part pour Dieu. C'est un privilège immense de pouvoir dire, « Mon Dieu, peu importe où vous serez dans le monde, même au travers des étrangers, même au travers des terribles épreuves, vous pourrez toujours dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il n'y a rien au monde qui va changer cela. Il peut y avoir bien des choses qui vont changer, mais jamais cela. Dieu place la sanctification très haut dans ce qu'il désire pour ses enfants. C'est important pour Dieu, cette sanctification-là. Dieu l'a mentionné. La circoncision du cœur, la circoncision des pensées. Et lorsque je pensais à la sanctification, il y a un verset qui m'a beaucoup intrigué longtemps. Et c'est ce verset-là dans 1 Pierre 1,16, « Vous serez saints car je suis saint. » Et lorsque je me suis levé un matin, puisque j'ai examiné mes pensées, j'ai dit, « C'est pas vrai, je ne suis pas saint. » Une pensée sainte ce matin. Peu importe ce qui s'est passé dans ma tête, ça ne ressemblait pas du tout à la sainteté. Et peut-être que cet après-midi, ça va être la même chose. Comment est-ce que je peux dire, « Vous serez saints car je suis saint? » Et c'est même répété pour le peuple d'Israël. En Lévitique, à 4 endroits, c'est mentionné. « Vous serez saints car je suis saint. » Comment est-ce qu'on peut dire ça? Qu'être saint, c'est être mis à part. Ce n'est pas la définition de l'Église qu'on avait, l'Église catholique. Être saint, c'est pas tout à fait la même chose. Être saint pour l'Église catholique, c'est réussir à faire des miracles, là. Toutes sortes de miracles. Là. Puis ils sont assez larges, ces miracles, d'ailleurs. Il y a beaucoup de saints. Hein. Il y en a des panoplies de toutes sortes de monde qui ont fait toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas ça. Être saint pour Dieu, c'est être mis à part. Vous serez mis à part parce que moi-même, je suis à part. Dieu n'est pas saint. Il est 3 fois saint. Et nous pouvons être saints. Nous pouvons nous considérer à part pour Dieu. La sainteté n'est pas quelque chose que l'on gagne à force de bien faire. La sainteté, comme telle, elle est venue avec l'élection. Nous sommes devenus saints car nous avons été élus. Et là, j'explique le vase. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père. Et le vase définit la sainteté. Naturellement, si c'est très limité comme image, parce que si on voudrait parler de sainteté, il faudrait remplir toute la salle ici. Parce que c'est énorme, la sainteté. Mais pour logistique, on va se contenter d'un petit vase. Et si nous avons été mis à part, Dieu a mis ce vase-là qui représente la sainteté à l'intérieur de nous. Nous avons la capacité d'être saints, ce que les inconvertis ne peuvent pas faire. Nous avons ce privilège-là d'avoir ce vase à l'intérieur de nous qui s'appelle la sainteté. Mais rappelez-vous, les privilèges ont des responsabilités. Nous avons la responsabilité de remplir ce vase. Nous avons la responsabilité d'opérer dans cette sainteté-là. Nous avons la responsabilité d'avoir une pensée différente du monde. Nous n'avons pas la pensée du monde, nous avons la pensée de la parole, nous avons la pensée de ce que Dieu veut nous donner. Voyez, j'ai pris l'image des billes. Et l'idée de la sainteté, c'est que nous avons l'action de remplir ce vase. Nous avons la responsabilité d'être saints. Comment nous sommes devenus saints? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés dans Hébreux 10:10. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ou, dans 2 Thessaloniciens, il nous dit, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. » Donc, l'action de l'Esprit, l'action de Christ sur la croix et la préscience de Dieu fait en sorte que nous pouvons être saints. La sanctification est notre conduite. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est que vous vous absteniez de l'impureté, de l'impudicité, ou de l'impureté aussi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On doit réaliser à ce moment-là, aujourd'hui, tout de suite, que la sanctification, c'est un processus. C'est quelque chose qui avance tranquillement. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui est en processus. Nous sommes en processus de sanctification. Et ce processus-là se fait à tous les jours. À la fin de notre vie, on va être loin de remplir le vase. À la fin de notre vie, il aurait fallu, pour être parfaitement saint, qu'on remplisse de petites billes comme ça toute la salle ici, jusqu'au top. Est-ce qu'il est impossible? Nous ne serons jamais saints comme Dieu l'exigerait, mais Dieu pardonne. On doit réaliser ce processus-là, et pour cela, je dois réfléchir sur ce que je suis. Je dois réfléchir sur ce que je dis. Je dois réfléchir sur ce que je pense. Je dois m'habituer à faire des introspections. Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que je pense la bonne chose? Est-ce que ce que je pense glorifie Dieu? Être glorifié à travers les gestes, à travers même mes pensées. Lorsque je décide de pardonner les actions injustes que j'ai pu vivre, lorsque j'examine mes pensées et que je les confronte à un verset pour la changer à la manière de Dieu. Lorsque je lis la parole, que je la médite, c'est-à-dire que je puisse la connecter avec la situation de ma vie. Lorsque je réalise que l'amour de Dieu dépasse les épreuves que je vis présentement. Et que je me dis, merci Seigneur. Lorsque je prie pour progresser dans la sainteté, peu importe le prix. Lorsque mes actions arrivent à glorifier le Seigneur, lorsque mes pensées en arrivent à glorifier le Seigneur, vous savez, notre impact, notre sanctification aura un impact direct avec notre service. Peu importe le niveau de notre implication. Moi, je viens à l'Assemblée le dimanche matin, puis c'est bien correct, c'est assez. Mais dans 2 Timothée 2, Paul donne des recommandations de conduite pour un serviteur de Dieu. Et vous êtes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Il nous parle d'être fidèle, d'éviter les disputes de mots, de dispenser droitement la parole de vérité, d'éviter les discours vains et profanes, de s'éloigner de l'iniquité. Et il conclut au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Vous savez, être un vase d'honneur, ça dépasse les quatre murs ici. Je peux être un vase d'honneur assis dans mon divan chez nous, juste à réfléchir. Je peux aussi être un vase d'usage vil. Je peux être un vase d'honneur, peu importe l'endroit où je suis, à mon travail, dans mes loisirs, dans mes relations de famille. Dans les fameuses réunions de famille où il y a des inconvertis. Je peux être un vase d'honneur dans mon service pour Dieu lorsque je vois plus les besoins des autres que les miens. Lorsque je me fais un point d'honneur d'être gentil avec tous ceux que je côtoie, même les plus détestables. Lorsque je décide d'arrêter les critiques face au travail que quelqu'un d'autre a fait, que j'aurais probablement fait beaucoup mieux. lorsque je prends les moyens pour arrêter les murmures et les critiques autour de moi. Et je pourrais en continuer comme ça jusqu'à demain matin. Mais vous connaissez, vous savez où est-ce que votre sainteté s'arrête. Et il m'arrivait, je faisais une farce quelquefois avec Hélène, puis je me disais souvent, lorsque j'arrivais à un problème, une problématique, je disais, je te soumets d'arrêter de parler au lieu de perdre ma sainteté. Préférable parfois de s'arrêter de parler que de perdre sa sainteté. La lecture, la méditation, la mémorisation de la parole fait partie d'un vécu, du vécu d'un chrétien qui progresse dans la sanctification. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. La parole sanctifie. La parole vous habite. La parole vous éclaire. Qu'elle soit en vous. Quel est ce pouvoir de transformation de votre pensée? Vous savez, la discipline de lire, c'est difficile, c'est dur. Parfois, on passe by, parfois, on ne lit pas. Le programme de mémorisation n'a pas vraiment la cote. Si j'étais vendeur de programmes de mémorisation, probablement que je serais en faillite. Ce n'est pas le plus populaire. Ça demande de la discipline, ça demande des efforts. Mémoriser, méditer la parole. S'arrêter, oui, mais il faut que je fasse le lavage, il faut que je fasse le repassage, puis il faut que j'aille travailler, puis il faut que mon boss, puis il faut que ma femme, puis il faut que mon mari, il faut que mes enfants sont, puis s'arrêter. Dire à tous ceux autour de vous autres, « Wow, j'ai un rendez-vous avec Dieu. » Non seulement la lire, mais je dois aussi la méditer et même la mémoriser. Ouais, mais je suis trop vieux. Faux. Ouais, mais j'ai pas le temps. Tu sais pas ce que tu le prends pas le temps. Ouais, mais je peux avoir n'importe quelle raison pour pas le faire. C'est toutes des fausses raisons. La mémorisation est une discipline olympique pour cerveau, pour votre cerveau. C'est quelque chose qui vous améliore. C'est quelque chose qui travaille votre cerveau, qui rouvre des canaux. Mais en même temps, la mémorisation des versets bibliques, des versets qui nous touchent, des versets qui nous parlent, amène la parole à un autre niveau, amène un autre niveau de compréhension, un autre niveau de bénédiction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de conduire votre voiture. Tout simplement, vous n'êtes plus capable de prendre votre Bible pour lire. Là. Vous n'êtes plus capable de vous pencher sur un verset. Et un verset revient à votre esprit. Vous dites à quelque part, quelle bénédiction que j'ai cette pensée-là de Dieu dans ma tête. La mémorisation des versets nous amène une bénédiction pour l'âme et le cœur qui est la pensée. Et rappelez-vous finalement que l'Esprit-Saint ne peut pas vous rappeler ce que vous ne savez pas. L'Esprit-Saint ne peut pas vous rappeler ce que vous n'avez jamais su. Oui, ça se peut que vous mémorisiez, puis le lendemain, je m'en rappelle plus. Quelle belle occasion de le relire. Hein? Puis le surlendemain, vous en rappelez plus encore. Hey, une autre belle occasion de le lire et de l'approfondir. Ce qui devrait nous pousser encore plus à la sanctification, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Car l'amour que nous avons pour Dieu devrait nous porter à livrer nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Parce que j'aime Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Et si j'aime Dieu, je devrais faire attention. Je devrais être convaincu que je devrais être plus saint pour lui parce que je l'aime. Que je devrais le respecter parce que je l'aime. Je devrais aussi rechercher sa volonté. Et je sais qu'il veut que je sois plus saint. Il veut que j'arrive à la sainteté. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Pour fruit la sainteté. Comprenez bien qu'est-ce que c'est le fruit. C'est ce que l'on produit. Qu'est-ce qu'un arbre produit? Chez nous, à côté de chez nous, j'ai un prunier et un pommier. C'est de valeur, mais le pommier ne fournit pas de prunes. Il fournit des pommes. Mais comme enfants de Dieu, nous ne devrions pas produire autre chose que la sainteté. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que l'on doit chercher à produire. Lorsque je fais quelque chose sans murmure, sans hésitation pour la gloire de Dieu. Lorsque je réalise que chaque événement de ma vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu et que cela est envoyé pour favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire ma sanctification. Chaque événement, bonne ou pas bonne, que je souffre ou que je sois dans la joie, c'est une manifestation de l'amour que Dieu a pour moi. Et je le prends et je dis, merci Seigneur. La prédication est presque terminée et j'ai encore de la place. Nous avons encore chacun de nous de la place dans notre cœur pour être plus saints. Mais je vais vous quitter avec une conclusion. Quel projet voudriez-vous placer devant Dieu dans le but d'être plus saint pour 2019? D'abord, trouvez un domaine qui vous ralentit ou qui arrête votre sanctification et soyez honnête devant Dieu. Ça, là, c'est un défaut que j'ai, c'est un vrai défaut que j'ai et j'aimerais tellement le corriger. Mais Seigneur, je veux m'engager à trouver une solution à cela. Je veux m'engager à ce que ça, là, ça se règle dans ma vie. Et j'ai bien de la misère, ça ne marche pas. Mais demandez à une personne en qui vous avez confiance de prier avec vous pour vos combats ou pour rendre gloire à Dieu pour vos victoires. Impliquez quelqu'un d'autre dans votre sanctification et vice-versa. Même si l'autre ne s'engage pas, à quelque part, veux-tu m'aider? Ce matin, tout à l'heure, juste avant la réunion, juste avant la prédication, j'ai dit à Stéphane, dis, viens ici, j'ai affaire que tu pries avec moi. Je me sentais tiraillé par ce que j'étais pour dire. Je disais à Stéphane, viens me donner un coup de main. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. On va juste prier. On va juste se mettre devant Dieu, ensemble, tous les deux. Et je sais que Stéphane est pris encore pour moi. Et ça me soulage. Alors, la même chose, moi je le fais avec mon épouse. C'est facile avec mon épouse parce qu'elle sait les défauts que j'ai. C'est dur à cacher. Et avec elle, je célèbre les victoires et je lui demande pardon des fois les défauts que j'ai, les fameux défauts. Mais je veux mettre ça devant Dieu. J'ai le but d'être plus saint. Pas parfait, je ne serai jamais parfait. Je n'ai pour toute ma vie, mais je veux être plus saint aujourd'hui qu'hier. Et je veux être moins saint que demain. On va terminer avec un dernier chant que j'aimerais que mes frères viennent jouer. Feu du fondeur. J'ai trouvé que c'est un chant qui nous parle. Surveillez les paroles. Surveillez pas la musique. Vérifiez pas si les musiciens jouent bien ou non. Ça, c'est pas grave. Évitez de chercher les fausses notes, mais cherchez les mots et mettez-les dans votre vie. Feu du fondeur. Il faut que je me disconnecte pour avoir les paroles. Ah, il n'y a plus personne à la régie. Ça va aller mal. Ah, c'est toi? Ils sont là? OK. Ils sont tous là? C'était un mauvais moment pour partir. Oui, on peut pratiquer la mémoire. Mais je vais le chanter avec vous. Ben avec vous, avec ceux qui le savent. Debout, s'il vous plaît. Jésus fonda, je dois vous y pur, que l'or et l'argent purifient mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondant. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à tout. Pour le fait que tu nous as donné la capacité d'être saints. Tu nous as donné ce privilège immense qui est la sainteté. Donne-moi aussi de faire ce choix-là dans ma vie, à tous les jours de ma vie, que je cherche toujours à être de plus en plus saint pour toi. Que je sois, Seigneur, un exemple. Je veux être un exemple de sainteté. Donne-moi de progresser, de fonctionner de progrès en progrès pour ta gloire, pour ton nom, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Je te remercie et je te rends gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, mes frères.